السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحابہ کی پہلی حالت اور اسلام قبول کرنے کے بعد
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ a évoqué l'état antérieur des compagnons et leur état après leur acceptation de l'islam et le changement révolutionnaire qu'ils ont apporté en leur personne. Il a cité à cet égard l'exemple du calife Omar radiyallahu anhu. J'avais mentionné ce récit dans le passé, mais je le mentionne de nouveau ici. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu déclare : comment sont-ils devenus des compagnons du saint prophète Mohammed peace soit sur lui, et comment ont-ils acquis ces éminents statuts ? Ses compagnons ont entrepris des efforts, sinon naguère, ils étaient des ennemis du saint prophète Mohammed peace soit sur lui, des ennemis mortels qui l'insultaient. Omar radiyallahu anhu, qui est devenu le deuxième calife après le saint prophète Mohammed peace soit sur lui, était son ennemi farouche, tant et si bien qu'un jour, Omar avait décidé de tuer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En cours de route, quelqu'un lui a demandé quelles étaient ses intentions. Omar radiyallahu anhu a répondu « Je m'en vais tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». L'autre lui a dit « Va d'abord tuer ta sœur et ton beau-frère qui sont devenus musulmans. Ensuite, tu pourras tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Omar radiyallahu anhu était tout colérique en entendant cela. Il s'est rendu chez sa sœur. La porte de la maison était fermée et quelqu'un était en train de réciter le Saint-Coran à sa sœur et à son beau-frère. Les commandements sur le port du voile et la modestie islamique n'avaient pas encore été révélés. C'est pour cette raison que ce compagnon se trouvait à l'intérieur de la maison. Omar a frappé à la porte en annonçant « Ouvrez ». En entendant cela, les occupants ont eu peur qu'ils allaient les tuer. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas ouvert la porte. Omar a lancé que « Si vous n'ouvrez pas, je vais briser cette porte ». Sur ce, ils ont caché le musulman qui récitait le Saint-Coran et le beau-frère aussi s'est caché. Sa sœur est venue ouvrir la porte et Omar lui a demandé « Que faisiez-vous et qui était celui qui récitait quelque chose ?» Prise de peur, elle a voulu esquiver la question. Omar a dit « Faites-moi écouter ce qu'il récitait. » Sa sœur a répondu « Tu ne vas pas respecter ce texte. Nous n'allons pas te le montrer même si tu nous tues. » Omar a répondu « Je promets de ne pas être irrespectueux envers le Saint-Coran. » Sur ce, ils lui ont récité le Coran. En l'entendant, Omar a pleuré et il a couru vers le saint prophète Mohammed peace soit sur lui, l'épée toujours à la main. En le voyant, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Oh Omar, jusqu'à quand cela va-t-il durer ?» En entendant cela, Omar Radutranhu a déclaré en pleurant, « J'étais sorti pour vous tuer, mais je suis moi-même devenu une proie. » Ceci est donc le résumé de ce long récit que j'avais évoqué dans le passé. Hazrat Muslim Maud Radutranhu déclare, « Tel était leur état antérieur, ensuite ils ont progressé. Ces mêmes compagnons consommaient du vin naguère, ils se bagarraient entre eux. » Il évoque ici d'autres compagnons. Ils avaient aussi d'autres faiblesses. Mais lorsqu'ils ont accepté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lorsqu'ils ont persévéré dans la voie de la religion, et lorsqu'ils ont entrepris des efforts dans la voie de la religion, non seulement ont-ils mérité d'éminents statuts, mais ils ont aussi élevé d'autres. Ils n'étaient pas nés compagnons, ils ressemblaient aux autres. Mais ils sont passés à l'action, ils ont fait preuve de constance pour mériter le statut de compagnon. Si nous agissons de la même manière aujourd'hui, nous pourrons nous aussi devenir des compagnons. Quel était le niveau de la crainte divine du calife Omar radhiyallahu anhu? Selon un récit, le calife Omar a déclaré que si une chèvre meurt au bord de l'Euphrate, eh bien j'ai peur qu'Allah ne me questionne à ce propos le jour de la résurrection. Selon un autre récit, le calife Omar radhiyallahu anhu avait déclaré « Si un chameau est perdu et meurt sur le bord de l'Euphrate, j'ai peur qu'Allah ne me questionne à ce propos. » Anas bin Malik déclare, « Un jour, je suis sorti avec le calife Omar bin al-Khattab. Il est entré dans un verger et il y avait un mur entre lui et moi. Il était à l'intérieur du jardin et je l'entendais dire, « Ô fils de Khattab, ô Omar, tu es l'émir des croyants. Par Allah, crains Allah, sinon il te punira certainement. » La phrase suivante était gravée sur l'anneau d'Omar bin al-Khattab, « Kafa bil mauti wa'idhan ya Omar » c'est-à-dire, « Ô Omar, la mort suffit comme conseiller. » C'est-à-dire que le souvenir de la mort suffit comme rappel et suffit pour se maintenir sur la bonne voie. Abdullah bin Shahzad disait, « J'avais entendu le hoquet de Omar bin al-Khattab et j'étais au dernier rang. Il récitait ceci, « Inama ashku bathi wa husni ilallah. » C'est-à-dire, « Je présente mes doléances et mes tristesses uniquement à Allah. » Feu, le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya, a mentionné ce récit dans un de ses sermons et il l'a expliqué dans ses propres mots. Il déclare, Abdullah bin Shahzad relate que le calife Omar radhiyallahu anhu dirigeait une fois la salat. J'étais dans la dernière rangée, mais j'entendais les pleurs d'Omar et ses lamentations. Il récitait ceci, « Inama ashku bathi wa husni ilallah. » Je présente toutes mes peines devant Allah. Je n'ai pas besoin de présenter mes peines à personne d'autre. Ainsi donc, ceux qui sont perdus dans le souvenir d'Allah frappent uniquement à sa porte. Ils y pleurent leur chagrin et leur peine et ils allègent là-bas leur fardeau. Le narrateur déclare qu'il était au dernier rang lors de la salat et qu'il pouvait entendre de là-bas les pleurs du calife Omar radhiyallahu anhu. Comment le calife Omar radhiyallahu anhu s'occupait-il des anciens serviteurs et de ceux qui consentaient à des sacrifices? Tharlaba bin Abu Malik relate, Omar bin al-Khattab radhiyallahu distribua des voiles à certaines femmes de Médine. Il avait reçu de bons types de voiles et l'un des voiles est resté. Certains lui ont dit, ô émir des croyants, offrez ce voile à cette fille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui se trouve auprès de vous, c'est-à-dire au Mekulthoum, la fille de Ali. Le calife Omar radhiyallahu anhu a répondu, au Mithrid, il y a davantage droit. Il a déclaré, au Mithrid, il y a davantage droit. Au Mithrid fait partie de ces femmes Ansari qui avaient juré allégeance au Saint-Prophète Mohammed, et le jour de la bataille d'Uhud, elle nous apportait des outres d'eau. Il existe aussi des récits démontrant qu'il récompensait ceux qui étaient proches de ceux qui consentaient à des sacrifices. Le père de Zayd bin Aslam racontait, « Je m'étais rendu au marché avec Omar bin al-Khattab. Une jeune femme est venue à sa rencontre par derrière et elle a dit, « Ô émir des croyants, mon mari est décédé et il a laissé les petits-enfants derrière lui et par Allah, ils n'ont même pas une patte de bouc à manger. » Et ils n'ont pas de champ, et ils n'ont pas d'animaux laitiers. Et j'ai peur que la famine les terrasse. Je suis la fille de Khufaf bin Ima Rafari. Et mon père était présent avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Hudaybiya. En entendant cela, le calife Omar s'est arrêté. Il n'a pas avancé et il a déclaré « C'est une relation très proche ». Après cela, le calife Omar Radhanhu est retourné et a pris un chameau robuste attaché à la maison. Il a rempli deux sacs de céréales et il les a placés sur le chameau et il a placé entre les deux sacs de l'argent et des vêtements pour une année. Ensuite, il a placé les rênes de ce chameau entre les mains de la femme et il lui a dit « Prends cela ». Avant que cela ne s'épuise, Allah t'accordera davantage. Une personne a dit, ô émir des croyants, vous lui avez beaucoup donné. Le calife Omar radhiyallahu anhu a répondu, que ta mère te perde. C'est-à-dire, il a exprimé son mécontentement à l'égard de cette personne. Omar a déclaré, par Allah, je vois encore son père et son frère qui avaient assiégé un fort pendant longtemps. Et ils l'ont finalement conquis. Ensuite, le matin, nous avons divisé leur part entre nous. C'est-à-dire, tous deux avaient conquis cette forteresse et tous les musulmans en ont reçu les butins. C'était comme si nous avions divisé entre nous leur part. C'est pour cette raison qu'elle mérite qu'on lui offre quelque chose. Il existe un récit sur le traitement du calife Omar radhiyallahu anhu à l'endroit des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des nécessiteux. Talha relate qu'une fois, le calife Omar radhiyallahu anhu est sorti de la maison dans l'obscurité de la nuit et Talha l'a vu. Le calife Omar est entré dans une maison puis dans une autre. Au matin, Talha s'est rendu dans une de ces maisons où se trouvait une vieille femme aveugle. Talha a demandé à cette vieille femme, « Que fait la personne qui vient te voir la nuit ?» La vieille a répondu, « Il me sert depuis longtemps, il s'occupe de mes tâches et il enlève mes saletés. » En entendant cela, Talha s'est dit avec remords, « Ô Talha, que ta mère te perde !» Malheur à toi. Toi, tu cherches les défauts de Omar, tandis que ses actions sont des plus sublimes. C'était ainsi que le calife Omar servait ses sujets. Il existe aussi de nombreux récits sur la manière dont le calife Omar a répondu aux besoins des femmes, des enfants, des nécessiteux, et ce, en faisant montre d'une grande crainte de Dieu. Et il était très inquiet à ce propos. Quand il constatait que les besoins d'un de ses sujets n'ont pas été satisfaits, il en était très inquiet. J'avais d'ores et déjà cité certains exemples les vendredis précédents dans divers contextes. À titre d'exemple, une fois, il a demandé à une femme pourquoi son bébé pleurait. Celle-ci a répondu que le calife Omar n'avait pas fixé d'allocation pour les bébés allaités et elle ne donnait pas du lait à son enfant afin qu'il s'habitue à manger. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de pleurer de faim. Le calife Omar était très agité en entendant cela et il a immédiatement pris des dispositions afin de fournir de la nourriture à cet enfant. Ensuite, il a annoncé qu'il fournirait également des rations à tout nouveau-né. De même, à une occasion, une femme en voyage n'avait rien à manger et elle devait camper quelque part la nuit et ses enfants pleuraient de faim. Quand le calife Omar l'a su la nuit, eh bien, il a immédiatement pris de la nourriture, de la boisson, du magasin, et il a livré cela à la femme. Et il était tout anxieux à ce sujet. Et il est retourné de là qu'après avoir préparé le repas, après avoir nourri ses enfants et après avoir vu leur joie. Ce n'est qu'après cela qu'il est parti de là. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare à ce propos: voyez le calife Omar radhiyallahu anhu, il inspirait la crainte et la peur chez le grand roi. Les états de César et de Khosrès tremblaient en raison d'Omar. Mais d'autre part, voyant les enfants d'une femme bédouine affamée dans l'obscurité de la nuit, un grand homme comme le calife Omar a tremblé de peur. Il a porté pour un sac de farine sur le dos et une boîte d'huile dans les mains. Et il est retourné qu'après avoir préparé un repas de ses mains pour nourrir ses enfants et après les avoir vus endormis paisiblement. Ibn Omar relate un autre incident. Quand le calife Omar radhiyallahu anhu est retourné à Médine de la Syrie, il s'est séparé de la caravane afin de s'enquérir de l'état de la population. Il s'est séparé de la caravane pour s'enquérir de l'état de la population locale. Il est passé à côté d'une vieille femme qui était dans sa tente. Il a commencé à interroger cette femme. Et elle a dit: « Ô toi, qu'a fait Omar pour moi ?» Omar a dit: « Il est retourné de la Syrie, il est là. » La femme a déclaré: « Que Dieu ne le récompense pas en ma faveur. » Le calife Omar a déclaré: « Malheur à toi, pourquoi dis-tu cela ?» Elle a déclaré que depuis qu'il est devenu calife, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu de sa part aucun don, ni aucun dinar, ni aucun dirham. Le calife Omar a déclaré: « Je suis désolé pour toi. Comment Omar peut-il connaître ton état, étant donné que tu résides dans un coin reculé ?» Ainsi donc, la vieille femme ne savait pas que le calife Omar était devant elle. Elle a déclaré: « Saint est Allah, je ne pense pas que le souverain du peuple peut ignorer ce qui se passe autour de lui. » Le calife Omar a pleuré et il se disait: « Oh Omar, malheur à toi. Combien y en a-t-il de ces personnes lésées qui connaissent mieux la religion que toi ?» Ensuite, le calife Omar lui a demandé: « Combien demandes-tu en réparation de l'injustice qui a été commise contre toi ?»« Je veux sauver Omar de l'enfer. » Il a dit qu'il souhaite sauver Omar de l'enfer et combien elle demandait en réparation de l'injustice commise contre elle. La vieille femme a répondu: « Ne te moque pas de moi. Que Dieu te fasse miséricorde. » Le calife Omar a répondu: « Il ne s'agit pas d'une blague. » Et le calife Omar n'a cessé d'insister jusqu'à ce qu'il lui paye 25 dinars pour réparer cette injustice. Lors de la conversation, Ali bin Abi Talib et Abdullah bin Masoud sont arrivés et ils ont déclaré « Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'minin ». La femme a placé ses mains sur sa tête et a dit « Qu'Allah me bénisse, j'ai conspué l'émir des croyants tandis qu'il était devant moi. » Le calife Omar a répondu: « Tu n'as commis aucun mal, que Dieu te fasse miséricorde. » Ensuite, le calife Omar a demandé qu'on lui apporte un morceau de cuir pour écrire dessus, mais il n'en a pas obtenu. Sur ce, il a découpé une partie du châle qu'il portait pour écrire ceci: « Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, ceci est l'acte prouvant qu'Omar a indemnisé telle ou telle femme pour le prix de 25 dinars pour toutes les injustices commises contre elle depuis que Omar est devenu chef jusqu'aujourd'hui. Si elle réclame son dû devant Dieu au jour de la résurrection, Omar en sera absous. » Ali bin Abi Talib et Abdullah bin Masoud en sont les témoins. Ensuite, il a confié l'acte à Ali et il a déclaré: « Si je décède avant toi, eh bien place cela dans mon linceul. » Quelle est la norme que les parents fixent pour les mariages de leurs enfants? Même aujourd'hui, nous constatons que certains ont des normes très élevées. Quelle était la norme du calife Omar? Il y a un récit à ce propos. Aslam, qui était l'esclave affranchi d'Omar, a déclaré « Une nuit, je marchais avec l'émir des croyants dans les rues de Médine. Il s'est adossé contre un mur pour un certain temps pour se reposer. Il s'était adossé au mur d'une maison. Et il a entendu qu'une vieille femme disait à sa fille qui était à l'intérieur d'ajouter de l'eau au lait. La jeune fille a répondu, « Ne savez-vous pas que l'annonceur de l'émir des croyants avait annoncé qu'il ne faut pas ajouter de l'eau au lait ?» Sa mère a répondu, « Ni l'émir des croyants ni son prédicateur ne sont présents. » La jeune fille a déclaré, « Par Dieu, ceci n'est pas convenable pour nous, que nous lui obéissons lorsqu'il est devant nous et que nous lui désobéissons en privé. » Le calife Omar était très content d'entendre cela et il a dit à son compagnon, « Aslam, marque cette maison d'un signe. » Le lendemain, il a envoyé quelqu'un à cette maison et il a uni cette fille en mariage avec son fils Asim. Constatant la vertu et la véridicité de cette jeune femme, il a demandé sa main pour son fils. De cette union est née une fille. Omar bin Abdelaziz était l'un des descendants de cette fille. Selon un récit, Salama relate que le calife Omar a traversé un jour le marché pour un travail quelconque. Et je me trouvais aussi au marché, dit Salama. Le calife Omar avait un fouet à la main. Il a déclaré au Salama, écarte-toi sur le côté quand tu marches. Et il m'a frappé légèrement d'un coup de fouet qui a touché le rebord de mes vêtements. Je me suis écarté et il n'a rien dit. Et un an s'est écoulé et j'ai rencontré le calife de nouveau dans le marché. Et il m'a dit, au Salama, as-tu l'intention d'accomplir le Hajj cette année? J'ai répondu oui, ô émir des fidèles. Ensuite, il m'a pris par la main et il m'a conduit chez lui et il m'a offert 600 dirhams dans un sac. Et il m'a dit, ô Salama, utilise ceci pour tes propres besoins. Ceci est en échange pour le coup de fouet que je t'avais donné un an de cela. Salama déclare, par Allah, ô émir des croyants, j'avais complètement oublié cela et aujourd'hui vous me l'avez rappelé. Le calife Omar s'assurait également que les prix du marché n'affectent pas les droits civils de personne. Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, en déclare à ce propos. Parmi les droits civils, il y a celui de n'avoir aucune perturbation dans le commerce. Nous constatons que l'islam n'a pas non plus ignoré ce droit. Par conséquent, l'islam interdit d'augmenter les prix et de conclure des accords coûteux, tout comme il interdit de baisser les prix afin de nuire aux autres et afin de les pousser à la faillite. Ce sont des pratiques qui sont courantes aujourd'hui. Le musulman déclare, une fois à Médine, un homme vendait du raisin à un prix auquel les autres commerçants ne pouvaient pas vendre. Lorsque le calife Omar est passé par là, il a réprimandé ce commerçant en disant que cela nuirait aux autres commerçants. Le but de l'islam était d'empêcher les prix exorbitants et la baisse des prix jusqu'au seuil du déraisonnable afin que ni les commerçants ni le public ne soient lésés. Amir raconte, un homme est venu voir le calife Omar et lui a dit « J'avais une fille qui a été enterrée vivante à l'époque de l'ignorance. » Mais je l'ai sortie avant qu'elle ne meure. Lorsqu'elle s'est convertie à l'islam, elle a été sujette à l'une des sanctions de l'islam. Elle a dû commettre une mauvaise action, suite à quoi elle méritait une punition. Elle a pris un couteau afin de se suicider. Je l'ai attrapée alors qu'elle avait coupé certaines de ses veines. Je l'ai soignée et elle était guérie. Ensuite, elle s'est repentie sincèrement. Ô émir des croyants, maintenant je reçois des demandes en mariage pour cette fille. Puis-je informer les autres concernant son comportement passé? Puis-je informer les autres concernant sa vie antérieure et ses actions passées? Le calife Omar a dit à cette personne, Allah a couvert son défaut et toi tu souhaites révéler son défaut aux autres. Par Allah, Si tu informes qui que ce soit à son sujet, je ferai de toi un signe pour toute la ville. Marie-la comme une femme chaste musulmane et oublie ses actions passées. Le calife Omar radhiyallahu anhu s'inquiétait des autres lorsque sévissait la peste dite Taun Amwas. Amwas est une vallée située à 9 km de la route menant de Ramla à Jérusalem. Selon les livres d'histoire, cette vallée porte ce nom car elle était le berceau de l'épidémie de peste, une épidémie qui a causé d'innombrables morts en Syrie. Selon certains, environ 25 000 personnes sont décédées en Syrie de cette épidémie. En l'an 17 de l'Hégire, le calife Omar radhiyallahu anhu a quitté Médine pour partir en Syrie. Arrivé à Sarh, il a fait venir les généraux de l'armée musulmane. Sarh est un village dans la vallée de Tabouk sur la frontière entre la Syrie et le Hijaz. Et ils ont informé le calife Omar que l'épidémie de la peste sévissait en Syrie. Après avoir demandé conseil, le calife Omar est retourné. Le recueil d'Al-Bukhari en fait mention. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé, dans un autre contexte. Abdullah bin Abbas déclare, à Sarh, le calife Omar a rencontré Abu Ubaida, qui était le chef de l'armée, ainsi que ses compagnons. Ils ont informé le calife Omar que l'épidémie de peste sévissait en Syrie. Sur ce, le calife Omar a appelé les premiers muhajirines pour leur demander conseil. Le calife Omar leur a demandé conseil, mais leur avis divergé. Certains disaient qu'il fallait continuer le voyage. D'autres ont insisté sur le fait que de nobles compagnons du Saint-Prophète Mohammed faisaient partie de cette armée et qu'il n'était pas convenable de les exposer au risque de l'épidémie. Le calife Omar a demandé aux muhajirines de partir et il a demandé conseil aux Ansar, mais leur avis divergeait aussi. Le calife Omar les a renvoyés, a demandé qu'on appelle les sages parmi les Qurayshites qui avaient accepté l'islam lors de la victoire de la Mecque et qui s'étaient installés à Médine. Ils ont pris une décision unanime, celle de rentrer. Étant donné qu'une épidémie sévissait en Syrie, il ne fallait pas s'y rendre avec l'armée. Omar a suivi leur conseil et a fait annoncer le retour. Abu Ubaida bin al-Jarrah a demandé à cette occasion « Est-il possible de fuir le décret divin ?» Omar a dit « Oh Abu Ubaida, si seulement quelqu'un d'autre que toi avait prononcé ces paroles, nous fuyons certes une chose décrétée par Dieu, mais pour nous diriger vers un autre décret de Dieu. Si tu possèdes des chameaux et que tu les emmènes dans une vallée où il y a deux parties, une partie verdoyante et une partie sèche, est-ce que tu ne vas pas les emmener sur la partie verte ? Et est-ce que cela ne sera pas en accord au décret de Dieu ? Et si tu pars sur la partie asséchée, est-ce que ce ne sera pas non plus en accord avec le décret de Dieu ? Abdurrahman bin Auf, qui n'était pas présent en raison de ses occupations, est retourné. Il a déclaré « J'ai la solution à ce problème. J'ai entendu le Saint-Prophète, paix soit sur lui, déclarer que si vous apprenez qu'une épidémie se répand dans un endroit, ne vous y rendez pas. Et si une maladie se répand là où vous vous trouvez, ne quittez pas cet endroit. » Lorsqu'il a entendu cela, le calife Omar a loué Allah et ils ont fait marche arrière. Le calife était donc venu de Médine jusqu'en Syrie, mais il n'était pas dans l'endroit qui a été frappé par l'épidémie et c'est pour cette raison qu'il est retourné avec ses compagnons. Étant donné qu'Abu Ubaida était le général de l'armée et qu'il se trouvait dans la région affectée par l'épidémie, c'est pour cette raison que lui et son armée n'ont pas bougé de là. Arrivé à Médine, le calife Omar a tenté de trouver des solutions pour protéger les musulmans de la destruction causée par l'épidémie. Il était très inquiet à propos d'Abu Ubaida. Un jour, le calife Omar a envoyé une lettre à Abu Ubaida. Il lui a dit « J'ai besoin de toi pour un travail important. Dès que tu reçois cette lettre, retourne immédiatement à Médine. Si la lettre te parvient le soir, n'attends pas le matin pour rentrer. Et si la lettre t'atteint le matin, n'attends pas le soir. » C'était là une expression de son amour à l'égard d'Abu Ubaïda. Lorsque Abu Ubaïda a lu la lettre, il a déclaré « Je comprends l'exigence du calife. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Omar. Il veut préserver ce qui ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'Allah sait le mieux ce qui m'arrivera. » Il a répondu à la lettre en écrivant « Ô émir des croyants, j'ai compris votre souhait. Ne m'appelez pas et laissez-moi demeurer ici. Je suis un des soldats musulmans. Le décret de Dieu aura lieu. Comment puis-je m'en détourner ?» Quand le calife Omar a lu la lettre, il a commencé à pleurer. Les membres de l'assistance lui ont demandé « Ô émir des croyants, Abu Ubaïda est-il décédé ?» Il a répondu « Non, mais peut-être qu'il mourra bientôt. » Après avoir demandé conseil à des compagnons avisés, le calife Omar a écrit à Abu Ubaïda « Vous êtes descendu dans une vallée, partez dans une partie élevée et aérée. » Il leur a conseillé de quitter les vallons pour se rendre en hauteur de la montagne où l'air est plus sain. Abu Ubaïda réfléchissait à propos de l'application de cet ordre lorsqu'il est décédé de la peste. Abu Ubaïda avait nommé Mu'adh bin Jabal comme son successeur. Celui-ci est également décédé de la peste. Mu'adh bin Jabal avait nommé Amr bin As comme son successeur. Il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré « Quand ces épidémies sévissent, elles se répandent comme le feu. Allez vous cacher sur les montagnes pour sauver vos vies. » Il est parti avec les soldats sur les montagnes. La virulence de l'épidémie s'est atténuée petit à petit et a complètement disparu. Quand le calife Omar a eu connaissance de ce discours d'Amr bin As, il a non seulement apprécié, mais il a déclaré qu'il avait obéi à son ordre envoyé à Abu Ubaïda. En sus d'Abu Ubaïda bin al-Jarrah, Mu'adh bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Harith bin Hisham, Suhail bin Amr et Utba bin Suhail et d'autres personnes honorables sont également décédées de cette épidémie. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu a relaté le retour du calife Omar de la région affectée par la peste d'Amwas. Il déclare « Une épidémie de peste a sévi en Syrie lors de la guerre. Le calife Omar, en personne, s'était rendu en Syrie afin de prendre des dispositions nécessaires pour la protection de l'armée avec les conseils du peuple. Et quand l'épidémie a gagné en virulence, les compagnons lui ont conseillé de rentrer parce que cela n'était pas approprié pour lui. Et lorsqu'il a décidé de retourner à Médine, Abu Ubaïda lui a dit « Souhaitez-vous fuir le décret de Dieu ?» Le calife Omar a répondu « Nous fuyons le destin divin pour nous diriger vers un autre destin de Dieu. » En somme, il n'est pas permis d'abandonner les moyens matériels. Certes, il faut asservir les moyens matériels à la religion. Voici les récits sur l'exaucement des prières du calife Omar. Khawad bin Jubair relate ceci. Lors du califat d'Omar, les gens souffraient d'une grave famine. Le calife Omar est sorti avec les gens, il a offert deux rakat de prière d'istisqa avec eux. Ensuite, il a placé son châle sur ses épaules. Le côté gauche du châle était sur son épaule droite et le côté droit du châle était sur son épaule gauche, c'est-à-dire qu'il s'est enroulé dans le châle. Ensuite, il a levé ses mains pour prier et il a imploré en ce sens. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastasqika. C'est-à-dire, ô Allah, nous demandons ton pardon et nous te demandons la pluie. Il n'avait pas encore quitté sa place que la pluie a commencé à tomber. Le narrateur déclare que les gens de notre village sont venus voir le calife Omar et ont dit « Ô émir des croyants, nous étions dans notre vallée à un certain moment de la journée, quand les nuages nous ont couverts, et nous avons entendu une voix disant « La pluie d'Abu Hafs vous vient, la pluie d'Abu Hafs vous vient. » Il y a le récit de l'acceptation d'une de ses prières liée à l'écoulement du fleuve Nil. Lorsque le Nil s'asséchait, avant l'islam, les Égyptiens suivaient une coutume pour qu'il s'écoule de nouveau. Allah sait le mieux si ce rituel avait vraiment lieu ou pas, si ce rituel avait un effet ou pas. Mais l'islam, en tout cas, a aboli ce rituel. En voici l'histoire de la fin de cette coutume. Qais bin Hajjaj relate ceci. Après la conquête de l'Égypte, ses habitants autochtones sont venus à la rencontre d'Amr bin al-As. Ils sont venus le voir un certain jour du mois et ils ont dit au émir, « Le Nil ne s'écoule pas tant que nous ne suivons pas un rituel. » Amr a demandé, « Qu'est-ce que cette coutume ?» Ils ont dit, « Quand les 11 nuits de ce mois sont passées, nous nous rendons chez une jeune fille vierge en présence de ses parents. Nous tentons de convaincre ses parents et nous revêtons cette jeune fille des plus beaux vêtements et des bijoux. Ensuite, nous la plaçons dans le Nil. » Amr bin al-As a déclaré que cela n'arrivera jamais en islam. Certainement, l'islam abolit ces rituels qui existaient avant son avènement. Ils ont attendu et le Nil ne coulait pas du tout, tant et si bien que les gens ont décidé de quitter cette partie du pays. Le Nil s'est asséché et les gens ont décidé de quitter les lieux. Vu la situation, Amr a écrit au calife Omar bin al-Khattab à ce sujet. Le calife Omar a écrit en réponse à Amr bin al-As que ce que tu as dit est correct. L'islam a aboli tous ces rituels qui l'ont précédé. Il a envoyé une petite note à l'intérieur de la lettre et le calife Omar a écrit à Amr, « Je t'ai envoyé une note dans ma lettre pour le placer dans le Nil. » Lorsque la lettre du calife Omar est parvenue à Amr, il a sorti la note et il l'a ouvert. Voici ce qui était inscrit sur cette note. Il était dit, « Ceci est écrit par Omar bin Khattab, le serviteur d'Allah et l'émir des croyants, au Nil en Égypte. Si tu coules de ton propre chef, alors ne coule pas. Mais si c'est Allah qui te fait couler, alors j'implore Allah de te faire couler. » Amr a placé cette note dans le Nil un jour avant la fête des chrétiens. Le matin venu, Allah a fait couler 16 coudées d'eau de plus dans le Nil en une nuit, et Allah a mis fin à cette coutume du peuple égyptien. La plupart des livres historiques ont confirmé cet incident, mais Mohamed Hussein Haykal, un biographe du calife Omar, a déclaré qu'il n'y avait pas de rituel pareil en Égypte. En tout cas, il s'agit d'un récit qui a été présenté. Ensuite, il y a l'incident de la voix du calife Omar que les soldats ont entendu lors de la bataille de Sariya. J'ai mentionné cela dans le passé, j'en fais mention ici de nouveau dans le contexte de l'exaucement des prières du calife Omar et du traitement particulier de Dieu en sa faveur. Selon le recueil de Tabri, le calife Omar avait envoyé Sayriya bin Zulaym dans la région de Fassa et de Darabarjid. Les soldats musulmans sont arrivés là-bas et ils ont assiégé le peuple de la région. Ces derniers ont appelé leurs partisans en renfort. Ils se sont rassemblés dans le désert pour affronter l'armée musulmane. Et quand leur nombre a augmenté, ils ont entouré les musulmans de toutes parts. Le calife Omar était en train de prononcer son sermon du vendredi lorsqu'il a déclaré « Ya Sariya bin Zunaym, al-Jabal al-Jabal », c'est-à-dire « Ô Sariya bin Zunaym, la montagne, la montagne ». Il y avait une montagne près de l'endroit où l'armée musulmane était stationnée. Si les soldats musulmans s'y réfugiaient, l'ennemi ne pouvait attaquer que d'un côté. Ils se sont réfugiés dans la montagne, après quoi ils ont combattu et vaincu l'ennemi et ils ont pris beaucoup de butins. Le Messie premier l'Islam a également relaté cet incident. Il a déclaré à ce propos, « Les compagnons ont accompli de nombreux prodiges. » J'avais lu l'extrait complet du Messie premier l'Islam dans le passé, dans un précédent sermon. À la lumière de cela, il est fort probable que l'incident du Nil soit vrai, bien que certains historiens le rejettent. Il existe un récit sur la bénédiction du coiffe du calife Omar et César. Hazrat Muslim Maud Radhatalanhu relate qu'une fois, à l'époque du calife Omar Radhatalanhu, César avait de graves maux de tête. Et malgré toutes sortes de traitements, il ne s'était pas rétabli. Quelqu'un lui a conseillé d'informer le calife Omar sur sa condition et de lui demander quelque chose en guise de bénédiction. Il priera pour vous et vous enverra également quelque objet béni et ses prières vous guériront certainement. Il envoya son ambassadeur au calife Omar. Celui-ci a compris que ce sont des gens arrogants et que César n'allait pas se déplacer en personne. Il souffre et c'est pour cette raison qu'il va envoyer son ambassadeur. Si je lui envoie tout autre objet béni, il ne l'utilisera peut-être pas par mépris. Je lui enverrai quelque chose qui servira de bénédiction et qui brisera son arrogance. Ainsi, le calife Omar lui a envoyé un vieux bonnet qui avait des taches partout et qui était noirci par la saleté. Il lui a envoyé ce bonnet comme source de bénédiction. César était très mécontent quand il a vu ce bonnet et il ne l'a pas porté sur la tête. Mais Allah voulait le faire comprendre qu'il méritera des bénédictions que par l'entremise du saint prophète Mohammed peace be upon lui. Il avait tellement mal à la tête qu'il a dit à ses serviteurs, « Apportez-moi le bonnet qu'Omar m'a envoyé pour que je puisse le mettre sur ma tête. » Il l'a placé sur sa tête et la douleur a disparu. Étant donné qu'il avait mal à la tête tous les 8 ou 10 jours, par habitude, lorsqu'il s'asseyait dans sa cour, il portait le bonnet sale du calife Omar sur la tête. Hazrat Muslim Maud Radhatalanhu déclare, il existe aussi un autre aspect caché dans ce signe que Dieu lui a montré. Un compagnon du saint prophète Mohammed peace be upon lui avait été fait prisonnier par César. Et César avait ordonné qu'on le force à consommer de la chair de porc. Le compagnon endurait la famine mais ne touchait pas la chair de porc. Bien que l'islam a permis de manger du porc en cas de contrainte, il avait l'habitude de dire que moi je suis un compagnon du saint prophète et je ne peux pas le faire. Quand il était sur le point de mourir après avoir été affamé pendant plusieurs jours, César lui donnait du pain. Et lorsqu'il recouvrait ses forces, César disait qu'il fallait lui donner de la chair de porc. Ainsi, il ne le laissait pas mourir et ne le laissait pas vivre. Quelqu'un lui a dit, « Vous avez ce mal à la tête parce que vous avez emprisonné ce musulman. Et maintenant, le remède est de demander à Omar de prier pour vous et de lui demander quelque objet béni. » Lorsque le calife Omar lui a envoyé un bonnet et qu'il a été soulagé de sa douleur, il en a été tellement ému qu'il a libéré ce compagnon. César tourmentait donc un compagnon. Et Allah lui a causé ce mal de tête en guise de punition. Quelqu'un d'autre lui a conseillé de demander la bénédiction du calife Omar et de lui demander de prier pour lui. Le calife Omar lui a envoyé cet objet béni et sa douleur a disparu. Par ce moyen, Allah a pourvu au salut de ce compagnon et Allah lui a révélé la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon le tafsir de Razi, il est dit que César a écrit au calife Omar que j'ai un mal de tête qui ne s'améliore pas. Envoyez-moi quelques médicaments. Le calife Omar lui a envoyé ce chapeau. Il n'avait plus mal à la tête lorsqu'il portait ce bonnet sur la tête et il en souffrait de nouveau dès qu'il enlevait ce bonnet. Il en fut surpris et il fouilla dans le bonnet et trouva un morceau de papier sur lequel était inscrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci est mentionné dans le tafsir de Razi. Voici quelques prières du calife Omar. Amr bin Maymoun relate ceci. Le calife Omar avait l'habitude de prier en ces termes. Allahumma tawaffani ma'a al-abrar wa la tukhallifni fi al-ashrar wa qini 'adhab an-nar wa alhiqni bil akhyar. Ô Allah, fais-moi mourir avec les justes et ne me laisse pas parmi les méchants et sauve-moi du tourment du feu et unis-moi avec les justes. Yahya bin Saïd Musayyib relate ceci. Lorsque Omar bin al-Khattab est revenu de Mina, il a placé son chameau à Abta et il a fait un tas de pierres dans la vallée de Batra et il a étendu un côté son châle. Il a levé ses mains au ciel et il a prié en ces termes. Allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati. واخفضني إليك غير مزين ولا مفرد. Ou Allah, mon âge est avancé, ma force a diminué et mes sujets se sont dispersés. Donne-moi la mort sans me laisser partir à la perdition et sans m'amoindrir. Avant la fin du mois Dhul-Hijjah, il a été attaqué et il est tombé un martyr. Ibn Umar relate que lors de la famine, Omar a adopté une nouvelle habitude qu'il n'avait pas adoptée auparavant. Après avoir dirigé la prière d'Isha, à la fin de la soirée, il entrait dans sa maison et il priait toute la nuit. Ensuite, il sortait de sa maison et il faisait des tournées dans la ville de Médine. Une nuit, j'ai entendu le calife Omar prier en ce sens. « Ô Allah, que la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas ruinée d'entre mes mains. » Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare à ce propos, « On doit adorer Dieu en toute sincérité. » Et on ne doit pas se soucier de ce que pensent les autres, que l'on soit mauvais ou bon. Cela ne doit pas avoir d'importance, mais il ne faut pas se présenter intentionnellement comme étant mauvais, comme cela a été interdit par une prière du saint prophète Mohammed Pessoas à lui, prière qu'il a enseignée au calife Omar Radu Taranhu. Cette prière se lit ainsi, « Allahumma jal sarirati khayram min alaniyati, wajal alaniyati saliha. » Ô Allah, fais que mon fort intérieur soit meilleur que mon état externe et rend mon fort intérieur juste. Le calife Omar a respecté les étiquettes de la mosquée Nabawi et les étiquettes de la Salah. Saïd bin Yazid relate que je me tenais dans la mosquée lorsque quelqu'un m'a envoyé une pierre. Je me suis retourné et j'ai constaté qu'il s'agissait de Omar bin al-Khattab. Il m'a dit, apporte-moi ces deux personnes. Il y avait deux personnes qui parlaient fort. J'ai pris ces deux personnes et je suis parti voir le calife Omar. Et il leur a demandé, qui êtes-vous ou d'où venez-vous? Ils ont déclaré qu'ils étaient des résidents de Taïf. Sur ce, le calife Omar a déclaré, « Si vous étiez les résidents de cette ville, eh bien, je vous aurais puni pour avoir parlé si fort dans la mosquée du Saint-Prophète Mohammed Pessoas à lui. » Ibn Umar radhiyallahu anhu déclare que le calife Omar radhiyallahu anhu n'avait pas l'habitude de lancer Allahu Akbar, c'est-à-dire de commencer la prière tant que les rangées n'étaient pas droites. Il avait nommé une personne pour s'assurer que les rangées étaient droites. Abu Othman Nahdi déclare que, au moment de l'Ikrama, Omar se tenait debout, le dos vers la Qibla, c'est-à-dire il se tournait vers les fidèles et disait à un tel d'avancer, à un autre de reculer. C'est ainsi qu'il organisait les rangées, et lorsque les rangées étaient droites, il se tournait vers la Qibla et lançait Allahu Akbar. Il y a plusieurs récits sur les sacrifices financiers du calife Omar radhiyallahu anhu dans la voie de Dieu. Ibn Umar déclare que le calife Omar a reçu une terre à Khaybar et il est parti consulter le saint prophète Mohammed Pessoas à lui à ce propos. Il a déclaré au messager d'Allah, j'ai obtenu un terrain à Khaybar. À mon avis, je n'ai jamais obtenu de propriété aussi bonne que celle-ci. Que me conseillez-vous à cet égard? Le saint prophète Mohammed Pessoas à lui a déclaré que si tu le souhaites, tu pourras consacrer cette terre dans le chemin de Dieu et utiliser ses revenus pour les dépenser en faveur des pauvres. Ainsi donc, le calife Omar a offert cette terre à titre de charité à condition qu'elle ne soit pas vendue et qu'elle ne soit offerte à personne et qu'elle ne soit pas distribuée dans le cadre d'un héritage. Il a consacré cette terre pour le bien des nécessiteux, pour les parents, pour libérer les esclaves et pour les voyageurs et les invités. Il a déclaré que le gardien pourra en tirer des récoltes pour sa consommation, mais il ne doit pas utiliser cela pour amasser des richesses. Chaque fois que l'occasion se présentait, le calife Omar s'efforçait d'exceller dans ses sacrifices. Une fois, le saint prophète Pessoas lui avait lancé un appel pour des sacrifices financiers et Omar a apporté la moitié de ses biens. C'est un récit que j'ai mentionné dans le passé. Il craignait tellement Dieu que lorsqu'il était sur le point de mourir, des larmes coulaient de ses yeux. Et il disait que je ne mérite aucune récompense, Je souhaite uniquement éviter la punition de Dieu. Il craignait Dieu à ce point. Il y a encore quelques récits à son sujet que j'évoquerai à l'avenir, Inch'Allah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر